trouver sur le net.
Déshabillez-vous.
Pardon ?
Déshabillez-vous.
Monsieur le Président,
je vous dis de vous déshabiller. Vous allez faire le tour de la salle de rédaction tout nu, nous allons pouvoir juger de l'effet comique. Mais qu'est-ce que vous faites, Plénac ?
Je me déshabille, monsieur le Président.
Si je ne vous avais pas arrêté, vous vous mettiez tout nu. Et vous faisiez le tour de la salle de rédaction.
C'est vous qui me l'avez demandé, monsieur le Président.
J'ai une question importante à vous poser, Blénac. Qui de nous deux est le monstre ? Moi qui vous demande d'ôter votre pantalon ou vous qui acceptez de montrer votre derrière ?
Je ne sais pas, monsieur le Président.
Tout le problème est là, je crois.
Alors, le petit passage qu'on vient d'entendre, là, c'est tiré du film Le Jouet, 1976, de Francis Weber.
Alors, donc Malika.
Alors, moi, je m'appelle Malika, et ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le verbe désobéir.
Moi, c'est Véronica, pronom elle, et le verbe, c'est danser.
Micro ouvert.
Moi, c'est Éléonore, et le verbe, c'est bricoler.
Moi, c'est Wayane, et mon verbe aujourd'hui, c'est renverser.
Moi, c'est Christelle et mon verbe, c'est intervertir.
Moi, c'est Juliette et mon verbe, c'est lutter.
Moi, c'est Muriel et mon verbe, c'est partager.
Moi, c'est Mako et mon verbe, c'est résister.
Moi, c'est Naïma et mon verbe, c'est aimer.
Ok. J'ai juste pas entendu, donc c'est Christelle, Muriel,
Juliette.
Juliette. Et Muriel, voilà. Pardon, hein, j'ai essayé d'écrire vite et en même temps d'écouter vos mots, c'était intéressant. Ben voilà, Naïma, tu veux peut-être dire un petit mot. D'abord, merci pour tes biscuits spécial Saint-Valentin à Cab Bisou. Tu as peut-être envie de t'exprimer un petit peu.
En fait, on essaye toujours dans nos actions et dans nos luttes d'amener de la joie et du partage, tout en étant extrêmement critique de la société dans laquelle nous vivons. Et donc, un braquage de la Saint-Valentin, cette fête super consumériste et débiloïde, en fait. Clairement, on voulait donc la détourner. Et ça prend encore plus d'importance depuis que on l'a fait en mode ACAB. La première année, c'était contre les violences policières. Puis l'année dernière sur la question de la Palestine contre le colonialisme, et cette année sur le capitalisme. Et c'est vraiment pour l'inscrire dans une réflexion de lutte. On prend ce moment plutôt que d'aller au restaurant et se faire des bisous. On peut se faire des bisous tout le temps en fait. Comment lutter contre cette société en y mettant quand même de la joie et de la profondeur. Et donc, ça semble super sérieux. Mais qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Celle-là va nous faire une conférence. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment amener une réflexion sur un sujet qui nous touche particulièrement, aujourd'hui d'une gravité sans nom. Et le choix de ce livre, nous, lorsqu'on l'a vu, lorsqu'on a appris cette nouvelle, honnêtement, en tant que maman, militante, activiste, révolutionnaire, Inch'Allah, ça s'inscrivait parfaitement dans la lignée, quoi. Et donc voilà, et c'est pour ça que on s'est associé depuis plusieurs années avec la PAC, parce qu'on trouve génial la PAC, parce que dès qu'on a une idée, ils trouvent nos idées sont toujours géniales, donc fatalement on va continuer, donc voilà. Mais je sais pas si toi tu as autre chose à rajouter.
En tout cas, merci d'avoir brossé le contexte en tout cas de cette rencontre. Nous, effectivement, chez PAC, On soutient avec plaisir les collectifs tels que celui de Front de Mère. Front de Mère, c'est un collectif de mamans qui militent effectivement depuis leur réalité, c'est-à-dire des quartiers populaires, mais avec un angle tout à fait antiraciste, anticapitaliste, ce qui rejoint tout à fait nos valeurs chez PAC. Et la méthode de l'arpentage, on la trouve hyper intéressante en éducation populaire, puisque c'est le cœur même de ce qu'on fait, de nos missions. L'arpentage, certaines d'entre vous en ont déjà pratiqué autour de la table ?
Tu veux deux personnes sur
10.
peut-être expliquer c'est quoi
un en quoi ça consiste un arpentage? Bah, comme tu as dit, l'idée c'est de désacraliser un livre. C'est une méthode de voilà d'éducation populaire. C'est-à-dire on prend ou on prenait peut-être dans le passé, enfin des livres qui étaient peut-être un peu plus durs à lire parce que trop théoriques. Et voilà, on s'appropriait ce livre en groupe. Et la façon de l'aborder, bah, c'est des voilà de répartir en fait les différentes pages du livre entre les personnes qui sont réunies pour le lire ensemble. Et après, chaque personne part de son côté lire son extrait. Et après, bon, on revient et on en discute. En gros.
C'est tout à fait ça. En fait, c'est vrai que c'est une méthode où on partage un savoir qui peut sembler, pour certains en tout cas, parmi les ouvrages qui ont été lus, d'une part assez inaccessible dans leur contenu. Ce bouquin ne l'est pas, je pense. Je pense qu'il est tout à fait accessible. Et c'est aussi une manière, en fait, de créer du savoir commun et de poser un regard critique aussi sur un contenu. C'est la raison pour laquelle, avant de partir effectivement en lecture individuelle, qui est, je dirais, un petit peu nécessaire avant de revenir en plénière et de procéder au partage, eh bien, il y a quelques consignes. Et ces consignes, elles sont clairement indiquées dans ce livret que je vous ai préparé. Et donc, ce qu'on va s'atteler à décortiquer dans l'ouvrage, il y a quatre petites consignes de lecture. Premièrement, qu'est-ce qu'on a envie de restituer au groupe après notre lecture ? La deuxième question, c'est une phrase qui résonne très, très fort en vous. Troisième consigne, une expérience en lien avec votre lecture. Et une quatrième consigne, comment est-ce que vous avez envie de répondre à la violence du capitalisme après cette lecture ? En gros, qu'est-ce qu'il reste de à la fois ce que vous avez lu et vous repartirez avec ce que les autres ont lu. Et c'est tout cet enrichissement collectif qui est intéressant dans la démarche. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ou des remarques ou une envie de partager quelque chose ?
Moi, je voulais dire que quand j'ai connu qu'est-ce que c'était un arpentage, j'ai été voir aussi un peu comment est-ce que c'était utilisé avant. Et en fait, avant, c'est une méthode qui est très fort utilisée dans les milieux populaires pour toutes les personnes qui avant travaillaient dans l'usine et qui parfois ne savaient moins, disons, lire, ou ils étaient un peu éloignés de toute cette partie de savoir lire, de savoir. Et donc, ils se rassemblaient ensemble pour pouvoir dire, mais en fait, on va le faire ensemble. Et parce que nous autres, surtout, ben, on sait pas, on nous oblige à nous écarter de, soi-disant, ce qu'on pourrait appeler, disons, un peu la politique. Mais en fait, c'est nous, la politique. Et ça vient de cette envie de partager. J'aimais bien cette petite anecdote de dire, mais en fait, l'idée de l'arpentage vient de ouvriers et ouvrières qui se disent, OK, mais on veut savoir de qu'est-ce qu'on est. Et on veut se le réapproprier avec nos expériences pour montrer qu'on n'est pas dans une séparation du monde. OK, ça, c'est le monde pour telle personne et, le monde, et que ça nous concerne toutes et tous.
Oui, c'est ça. C'est retrouver du pouvoir d'agir, finalement, en s'appropriant une lecture. C'est aussi une des raisons, par exemple, qui poussait les ouvriers et les ouvrières à arpenter des ouvrages. C'est le coût du livre. Un livre, ça a un prix, et effectivement, le savoir, ben, pour le rendre le plus accessible possible, c'est un des moyens qui a été utilisé. Alors, la première étape de l'arpentage, ici, avant de casser le livre, on peut se les passer. Et alors, je vais vous demander d'observer la couverture. Oui, merci.
Chacun a un livre ? Ou vous le lisez à plusieurs ? Comment ? Comme ça ?
Voilà, vous pouvez vous le prêter. Et puis, vous pouvez observer la couverture, la typo, la couleur, le graphisme, la quatrième de couverture aussi. Et puis, ben, j'aimerais bien déjà avoir un petit retour.
Oui. Pourquoi on dit la quatrième de couverture ?
Parce que...
Quatrième ? Oui, première page, on ouvre le livre.
3 et 4.
OK.
Simplement. Voilà, et si vous pouvez partager vos observations sur l'objet en tant que tel. Ah, ben, vas-y, Malika. Tout à fait, mais c'est pas
non, je disais que je trouvais qu'il était beau, que Luigi était beau. C'était ça, mon observation.
Et je pense que ça participe à l'engouement que, au-delà de son geste, le fait que ce soit un bel homme participe sur les réseaux sociaux à ce les gens s'y intéressent. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi c'est un bel homme? On croit, enfin, il a pas une tête de criminel. Donc, je pense que ça participe aussi à ce, l'engouement que.
Donc il y a une représentation effectivement de Luigi Mansion dessus et vous le trouvez très beau.
Ah ouais, pas toi.
Ah ben écoute, il me fait penser à un cousin, donc c'est un peu particulier. Non,
mais il est beau quoi, c'est clair, il est beau et on sait que la beauté, c'est comment dire, c'est sexy quoi, la beauté, c'est attirant la beauté. C'est...
Ça vend plus, clairement.
Ça vend plus.
Oui, ça vend plus, il n'y a rien à faire.
Oui, dans notre monde capitaliste, ça vend plus.
Voilà. Je peux, ouais. Moi, je dirais que l'illustration, elle est tout à fait liée au titre, quoi. On voit qu'il est représenté comme un saint, vraiment. Il n'y a pas de doute, enfin, en tout cas, moi, dans mon interprétation. Et que, du coup, ça, le titre Saint Luigi et l'image, comme il est représenté en saint, est un peu, comment on dit, l'inverse du sous-titre, comment répondre à la violence du capitalisme. Parce que pour moi, quand j'entends quelqu'un de saint, bon, moi, j'y connais un peu rien en religion, mais pour moi, c'est quelqu'un qui ne va pas prôner la violence, qui va être quelqu'un qui va être dans... pas la violence, quoi. Donc je trouve ça intéressant, la différence entre le titre et l'illustration et le sous-titre, comment répondre à la violence du capitalisme en étant un saint. Mais donc ça veut dire quoi être un saint? Pourquoi il est représenté comme ça? Pourquoi il a été vu comme ça par... Enfin, moi, en tout cas, de ce que je sais de ce livre-là, c'est ça, c'est qu'il a été reçu, son geste et le personnage a été reçu comme quelqu'un de saint alors qu'il a tué quelqu'un, quoi. Est-ce que c'est ça qu'on entend d'un saint? Bon, voilà.
J'ai envie de rebondir, justement, sur ce que tu dis, parce que, comme Luigi, moi, j'ai des origines italiennes, ancrées dans le catholicisme, clairement, et il n'est pas représenté dans n'importe quelle posture. C'est le Sacré-Cœur de Jésus, en fait. Et donc, Jésus, à travers le Sacré-Cœur, c'est le sacrifice suprême. Il offre son cœur, d'une part, et d'autre part, il y a une théorie qui dit que le premier des communistes connus, c'était peut-être Jésus, parce qu'il renversait l'ordre établi à l'époque et qu'il prônait une égalité, une lutte contre l'injustice, etc. C'est une des théories, en tout cas. Mais voilà, comme tu dis, il est auréolé, il a ce cœur qu'il offre dans une imagerie tout à fait d'icône catholique, quoi. Et c'est peut-être même lié à ses origines, en fait.
Bah non, j'allais dire par rapport à ses vêtements, il porte pas que la tunique d'un saint. Enfin, il y a aussi le sweater, la capuche qui fait de lui aussi un héros quand même un peu moderne, contemporain. Enfin, il y a un peu les deux.
Mm-hmm. Tout à fait. Moi, ce qui me frappe, c'est un peu la différence de couleur entre lui en noir et blanc et l'extérieur en rouge. Et bon, je vais peut-être un peu loin, mais pour moi, c'est un peu le capitalisme qui peut parfois faire saigner, blesser un tas de choses. Et lui qui est du coup en contraste, je trouve que les couleurs sont bien choisies pour ça.
Ouais, moi, ça me rappelle la tenue des prisonniers, là où ils sont en combi orange, justement.
Moi, je mets mon micro, mais vous n'êtes pas obligé de parler. Hein. Je ne force pas.
Il y a même des photos de Luigi Mansion en prison, parmi les photos les plus connues, où il a, comme tu dis, cette tunique orange de prisonnier. Tout à fait.
Non.
Il y a aussi, on a analysé juste l'image et le titre, mais Frustration Magazine, c'est le magazine qui est porté par Nicolas Framont lui-même. Donc c'est intéressant de voir que, du coup, les liens qui libèrent. Et Frustration Magazine, moi je connais pas les liens qui libèrent, je sais pas, c'est une maison d'édition quoi, mais...
Eh bien, c'est très précieux ce que tu dis, Wayan, hein, c'est ça. Parce qu'en fait, parfois, le titre est tout à fait inspirant d'un livre, et c'est souvent... Moi, en tout cas, c'est souvent à travers la maison d'édition que je sais quel sera le propos du livre, en tout cas, quelle tendance il aura. Des liens qui libèrent, Ils partagent des valeurs, je dirais, progressistes, je dirais, situées à gauche. Et, voilà, ça nous permet de situer un petit peu dans quoi va s'inscrire l'ouvrage, dans quelle tendance, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, on peut faire confiance à une maison d'édition ? En général, on connaît les processus et on privilégie certaines maisons d'édition, en tout cas pour des arpentages avec Front de Mer, que ce soit des liens qui libèrent, où il y a également... comment ? La Fabrique, bien sûr. Enfin, voilà. C'est tout à fait intéressant ce que tu relèves, la maison d'édition. Est-ce qu'il y a d'autres détails que vous voulez pointer ?
Ils ont fait un effort sur le prix, il n'est pas si cher que ça.
Ah, il coûte combien ?
12,90.
Ça va encore.
C'est un petit livre, hein.
Mais j'avoue, ouais, de nos jours, c'est cher.
Tu dis ?
De nos jours, c'est super cher à faire, les livres. Donc,
Tu t'y connais en livre ?
Je suis éditrice.
Et toc.
Tu veux compléter ce que je disais sur les maisons d'édition, peut-être ?
Quelque chose à dire là-dessus ?
Non.
C'est galère.
C'est galère. Mais à part ça, j'étais d'accord.
C'est galère. Pourquoi ?
Quand on est une maison indépendante, au niveau du prix de la production, de réussir à se faire voir et tout ça, c'est devenu très compliqué, surtout post-Covid.
On peut aussi soulever que c'est un livre très récent, non ? Août 2025, donc il a moins d'un an.
Ça, c'est la sonnette d'entrée. Donc il y a peut-être des gens en plus. Bien, ça.
Élever Luigi au niveau d'un saint... alors qu'on sait ce qu'il a fait, l'acte qu'il a posé, reste une symbolique assez forte. Hein.
Joël est parmi nous.
Oui.
Pas de soucis. Bienvenue, Joël.
Bonjour, Joël.
Bonjour. On t'informe vite fait, c'est enregistré pour Radio Panique.
Mais... C'est campus, mais c'est pas grave.
Pardon, je suis désolée. Tu couperas.
Mais non, justement, ça crée marrant.
Joël, mets-toi bien. Il y a du café, du thé, de la tarte. Des biscuits. Super biscuit de Naïma. Voilà. Alors, dans le petit livret que maintenant on va pouvoir distribuer, vous allez retrouver d'autres informations. Donc, un petit mot, donc, les consignes, évidemment, et ici, vous faites comme vous voulez avec les consignes, en gros. Hein,
vous ne passez pas un examen, c'est ça qu'elle veut dire.
Tout à fait.
On est détendu.
Un petit mot sur l'auteur, un petit mot au sujet de Luigi Mangione. Dont l'histoire est la base du livre. Quelques espaces où vous pourrez prendre des notes. Un petit portrait de Front de Mer et un petit portrait du mouvement PAC, où vous êtes aujourd'hui. Et donc, comment ça va se passer ? En gros, maintenant, on va distribuer les petits livrets. Je vais partager le livre. Et ensuite, on va partir en temps de lecture pendant environ, 40 minutes. 40-45 minutes. Je vais dire 40, comme ça on a un petit rap de 5 minutes. Et ensuite, on revient en plénière et on partage ce qu'on a envie de partager de ce qu'on a lu. Voilà. Les consignes, en gros, c'est pour guider un petit peu. Wayan ?
Ouais, j'aimerais peut-être faire, si vous êtes d'accord, un pas en recul pour avoir... quelques infos sur Nicolas Framont, parce qu'en fait, moi, je le connais très peu. Enfin, j'ai entendu une interview de sa part, et j'ai cru comprendre qu'il faisait partie des LFI à un moment donné, et qu'il est sorti des LFI. Enfin, c'est quand même intéressant. Si vous avez quelques infos rapidement pour ne pas trop prendre de retard, et qui sont pertinentes, et ça m'intéresse de savoir peut-être un peu plus, quoi. Son parcours, quelle est sa formation aussi, peut-être, voilà.
Il est sociologue. Ce que je crois savoir, après, c'est une réserve. Tu vois, je ne suis pas une fan à ce point non plus. Hein. C'est pas Peter. Hein.
C'est pas Peter. On ne comprend pas.
Non, mais ce n'est pas grave. Et oui, en fait, il a travaillé, je pense, pour la LFI. Il a travaillé même dans. Si ce n'est pas au Parlement, c'est au Sénat, dans lequel il avait une fonction. Je pense pour travailler sur des projets politiques et Il connaît super bien la machine, le monde politique, parce qu'il y a travaillé pendant longtemps. Il s'est formé, il a quitté, il s'est mis en retrait. Je sais qu'il vit dans une petite ville, je ne sais plus où en France. C'est par choix, en fait, il le dit clairement. Je ne veux pas participer à ce simulacre de société, à ces gens totalement déconnectés. Et Nicolas Framont, à mes yeux, c'est vraiment quelqu'un qui est ancré dans le réel. La différence avec les politiques. Et donc, il parle souvent de sa grand-mère, qu'il a élevée, avec qui il avait eu des difficultés lorsqu'elle était en fin de vie, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a quitté le monde politique. Pourtant, il était à LFI, qui est à gauche, pas extrême gauche. Mais je pense que sa réflexion est ce qui le motive. Il est plus à gauche qu'à LFI, clairement.
En fait, je complète parce que c'est impeccable, ta présentation, Naïma, vraiment. En gros, à un moment donné, dans son parcours politique et institutionnel, il a réalisé que lui, ce qui l'intéressait, c'était l'action directe. L'action directe sur le terrain, l'action directe dans la mobilisation. Et à travers cette mobilisation qui fait remonter effectivement les réalités de terrain, c'est comment on dénonce au mieux l'injustice sociale et comment est-ce qu'on se retrouve à lutter efficacement contre. Et c'est là-dedans qu'il se positionne à travers ses ouvrages. Gradiella, tu complètes ?
Non, je dis un petit truc, mais moi, j'aime bien titiller. Hein. Ouais. Je vois bien Nicolas Framont, j'ai déjà écouté plusieurs fois. J'ai lu son bouquin. Bon, ça ne veut rien dire, hein. Je ne connais pas plus que ça, mais j'ai déjà écouté plusieurs fois et je me dis, il y a aussi dans l'air du temps un changement. C'est-à-dire qu'on sent bien que le pouvoir, il est occupé, enfin, le pouvoir institutionnel, vous voyez, il est occupé à s'effriter sa part en cacahuète. Et que peut-être le bonhomme, il sent que là, maintenant, c'est bon. C'est plus là que ça va se passer, quoi. Voilà, j'avais envie de dire ça.
Mais je crois qu'il a aussi ce don et cette capacité de sa grille de lecture. Il arrive à, elle est assez critique et il arrive à la partager. Et souvent, lorsqu'on. On n'est pas familière ou familier avec le monde institutionnel ou la politique, il rend accessible la lecture de beaucoup d'événements et il le resitue dans un contexte.
Oui, vas-y, Malika. Mais oui, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il travaille, comme d'autres personnes aussi, dans ce courant d'essayer de ramener du concret et à une compréhension assez facile, on appelle ça un peu, je ne sais pas pourquoi on appelle ça en français la vulgarisation, mais de comprendre en fait comment fonctionne le capitalisme, comment fonctionne la bourgeoisie, comment fonctionne le pouvoir, comment fonctionnent les élites du pouvoir, et aussi cette crise du pouvoir. Et en fait, il le ramène à des trucs un peu du réel, où est-ce qu'on on peut se dire, ah oui, mais pas seulement je comprends, mais c'est pas qu'on s'identifie, mais il ramène à des situations où tu peux te dire, ok, mais je comprends, et ça me bouge parce que ça vient toucher quelque chose que je vis, quelque chose qui me révolte, assez facilement. Et donc, il fait un peu ce truc de pont, de ne pas être... Et c'est pour ça que ça a aussi, pour moi, tout son sens de arpenter ses livres, parce qu'il en a fait un autre qui est délicieux, c'est Parasite. C'est dans le sens où il explique comment ça fonctionne, mais il te ramène à un truc qui te révolte encore plus. Et comme l'arpentage est fait de cette manière pour vulgariser, mais c'est un peu dans ce sens-là.
Et puis, je trouve qu'il ramène... La révolution concrète, possible et réelle, en fait. Je trouve qu'il nous donne des moyens, des idées d'action, et que, oui, le changement, il est à notre portée. Ce que le pouvoir, de manière générale, essaye d'effacer, c'est comment tu quittes la théorie. C'est joli, la théorie, c'est joli de vulgariser, mais comment concrètement, un exemple, on veut lutter contre l'extrême droite, il y a des jolies cartes, tu as tout ce que tu veux, mais comment tu le fais dans la réalité? Et où est-ce que, c'est quoi l'extrême droite? Quels sont ses impacts dans la réalité aujourd'hui et où est-ce que je peux me mettre pour lutter contre l'extrême droite concrètement, par exemple.
Mais c'est pas facile à faire, moi, je trouve. Et je trouve qu'il le fait effectivement très bien. Il y a une émission « Comment faire peur aux riches ?» Genre vraiment, c'est quoi, c'est qui ? Renverser la table ? Effectivement, moi, ça m'a fait trop du bien de l'écouter. Je l'ai même réécouté deux fois parce que je trouve que c'est pas facile de passer de la théorie à la réalité. Et lui, il fait ça avec une aisance comme ça. Tu te dis...
Et ce que je trouve intéressant aussi dans son personnage, c'est le fait que justement il ait pu être vraiment au cœur de dialogue entre les syndicats et les travailleurs, et même du coup les patrons aussi, et qu'il a du coup cette lisibilité là aussi, et que sa conclusion, c'est de dire quoi ? C'est qu'en fait, c'est l'action directe, la solution. Le dialogue, c'est bien, mais ça suffit pas. Enfin, il y a des égos qui sont dans le jeu aussi, et je trouve que du coup sa lecture est hyper importante pour ça aussi, quoi.
Et puis c'est un rappel à comment on va refaire basculer les rapports de force, tout simplement. Et ça, c'est super important.
Mais je suis super d'accord avec ça. L'idée de comment est-ce qu'on structure le rapport de force et comment est-ce qu'on renverse l'ordre établi. Et en ça, je trouve que le fait que Pâques et Front de Mer soient inscrits dans cette démarche, c'est pas innocent. Parce qu'en fait, on a ce rôle de contre-pouvoir, mm-hmm. finalement. On a le poil à gratter quand on fait de l'éducation populaire, clairement. Et à travers le capitalisme, il s'exerce aussi avec force et domination contre les structures qui incarnent le contre-pouvoir, que ce soit les collectifs, les associations, etc. Et que demain, peut-être, c'est nous qui porterons une blouse orange, parce que je ne sais plus si c'est Montesquieu qui disait ça, qu'une injustice faite à un seul, c'est une menace faite à tous. Mm-hmm. Et c'est peut-être un petit peu le propos du livre, mais on va le découvrir ensemble, si vous êtes d'accord. Est-ce qu'on est...
Ouais. Il y a que des filles ici.
Ah,
hein.
T'as jamais fait ça.
Donc tu as. Il y a que des filles.
Oui.
C'est vraiment comme ça.
C'est vrai, il y a que des femmes.
Ouais.
Enfin. Ok. C'est questionnant, ça, c'est vrai. Pourquoi, à votre avis? Je sais pas.
Ouais. Ce que t'as dit, on l'a pas entendu.
La révolution sera féministe.
En fait, je me souviens d'un entretien qu'on avait eu avec Fatima Wassak, mm-hmm. qui a inspiré Front de Mer, d'ailleurs, parce que Fatima Wassak avait créé Front de Mer France et Naïma et Selma, Front de Mer Belgique et d'autres aussi. C'est comme si les femmes prenaient, en plus de toutes les charges éducatives, domestiques, charges mentales, etc., aussi le soin de réparer le monde. Peut-être qu'il y a de ça. Et peut-être que cette valeur, en tout cas cette mission, elle ne doit pas être que féminine, parce qu'elle sert le monde. Et le monde, il est fait de tout le monde, quoi. Voilà, voilà. D'autres choses à ajouter ?
Moi, je suis très heureuse d'être entre femmes. Ah. Je trouve que c'est une bonne surprise. Je suis contente que vous soyez mes Valentines.
Ah. Bon, merci les filles. Eh bien, le livre a été cassé. Il y a une 12e partie, mais je la garde au cas où Selma nous rejoindra pour qu'elle puisse la lire. Sinon, l'une de nous peut la lire. On va s'en partager la lecture.
Quoi, tu déchires vraiment le livre, quoi? Mais enfin, ça va pas la tête, quoi?
On n'a pas entendu le craquement des pages.
Et t'as déchiré comme ça, au hasard?
Non, j'ai fait environ 11 pages par participante, pour que chacune puisse apporter quelque chose.
Ok. J'ai compris ça, moi.
Ben voilà.
Je croyais que tu avais photocopié les textes du livre, qu'on allait lire ça.
Tu sais que c'est une question que je me suis déjà posée. À mon avis, les auteurs préfèrent qu'on casse le livre plutôt qu'on le photocopie. Voilà. Parce que la reproduction sans autorisation, elle est interdite. Mais déchirer un livre, c'est pas interdit. Surtout que nous ne le déchirons pas pour le détruire.
Après, t'en fais quoi de toutes ces pages comme ça?
Souvent, les personnes souhaitent repartir avec. Et parfois, ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne qui dit « Moi, je suis OK de reprendre toutes les parties et de tout lire. » C'est aussi l'avantage d'un arpentage. C'est que ça se trouve, le bouquin ne nous intéresse pas du tout. Et OK, on passe à autre chose. Ou alors, on a envie d'en savoir plus et de se plonger plus dans la lecture. Mais en tout cas, c'est une lecture enrichie du regard des autres. Et ça, c'est précieux, quoi. Voilà.
On espère que c'est enrichi.
Du coup, je pense que Naïma, t'es ok pour commencer? On va partir sur 40 minutes. Je pense que, voilà, j'espère qu'en 40 minutes, vous arriverez à vous approprier tout ça.
Merci.
Et puis, dans le au moment où on partira en plénière, s'il est.
J'ai vu qu'il y avait un stock de stylos. Est-ce que c'est possible d'avoir...
Bien sûr, oui, je ne vous ai pas dit ça.
Est-ce qu'on va faire dans l'ordre pour la restitution ou pas?
Après, pour la restitution, oui, parce que c'est un essai.
Okay.
C'est pas... parfois, quand c'est un recueil de... Comment ça s'appelle? Une anthologie. Donc des récits, là, il n'y a pas de souci, mais celui-là, il y a une suite. Voilà, et ça, c'est... J'ai des stylos.
Trop bien. Mako a des stylos. Alors là... Franchement, on est paré dans la vie. Et quoi, du coup, Mako, c'est toi la chef, hein, moi, c'est juste pour comprendre. Quoi, j'éteins mon micro et on laisse les gens lire ou bien on lit tout haut ?
Non, non, on laisse les gens lire. Alors, juste une chose, vous lisez où vous voulez. Si vous avez envie de sortir, d'aller dans le jardin, à l'étage, dans les toilettes, comme on en a plusieurs chez PAC, c'est pratique si vous aimez bien lire dans les toilettes. C'est tout à fait possible. Sentez-vous libre, voilà, de boire du café, d'écouter de la musique dans vos écouteurs, vraiment. De parler à haute voix. Alors, tu peux lire à haute voix, mais fais en sorte que les autres puissent rester concentrés, simplement. Et on se retrouve d'ici 40 minutes, autrement dit, à 15h30. Ça vous va ?
Allez, alors.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Et donc, c'est par rapport à ces pages-là qu'on répond aux questions.
Oui, c'est ça.
Ah oui, t'as quand même fait un questionnaire, toi.
Oui, j'ai quelques consignes de lecture parce que j'aime bien savoir ce que les gens ont envie de... Enfin, en tout cas, avoir une petite boussole, c'est intéressant. Okay. Voilà. Bonne lecture à toi aussi, Graziella.
Merci.
Et c'était le 4 décembre dernier. Le PDG d'une des plus grandes assurances santé des États-Unis, United Healthcare, est abattu en pleine rue. Très vite, le visage du tueur inonde les réseaux sociaux.
C'est un feuilleton criminel qui passionne les États-Unis.
Et le fait que les mots « defend »,« deny » et « depose » étaient inscrits sur les munitions qu'il a utilisées ont suffi à l'ériger au rang de justicier.
Il déchaîne les passions et fait tourner les têtes sur les réseaux sociaux.
This Ivy League hottie named Luigi is the Robin Hood that we never knew that we needed.
Robin des Bois, inattendu, dixit que cet internaute. Ce tueur s'appelle Luigi Mangione. Il a 26 ans, pas vraiment le profil d'un truand. Il incarne la colère contre un système qui refuse de payer les soins de centaines de milliers d'Américains. Il est érigé en icône de la lutte sociale, une sorte de justicier. Peut-on pour autant faire de Luigi Mangione un héros ? C'est la question que vous posez dans votre livre, Nicolas Framont. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, rédacteur en chef du magazine Frustration, média qui défend un point de vue anticapitaliste. Vous venez de publier Saint Luigi, comment répondre à la violence du capitalisme aux éditions Les Liens qui Libèrent. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans cette affaire au point de faire un livre sur Luigi Mangione ?
Ce qui m'a intéressé, c'est d'abord que dans les heures qui ont suivi l'assassinat de Brian Thompson, les réactions aux États-Unis de la part des citoyens américains sur les réseaux sociaux, des réactions qui ont été confirmées par des sondages qui ont été menés au cours des semaines qui ont suivi, montrent qu'il y avait en fait assez peu de compassion pour ce PDG et de la sympathie pour son tueur avant même qu'un premier suspect soit arrêté. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fallu la figure, on va dire, avantageuse de Luigi Mangione pour qu'il y ait de la sympathie pour son geste présumé, puisque c'est quelqu'un qui plaide non coupable à ce stade, c'est important de le préciser. Et en fait, le contraste entre un geste violent et une popularité, ça dit toujours quelque chose de la société américaine en particulier, mais pas seulement. C'est-à-dire que la réponse qui a été donnée par les gens qui avaient cette réaction de sympathie, ou en tout cas de compréhension, ça a été de dire... certes, c'est un meurtre, c'est un acte moralement et philosophiquement évidemment très contestable, mais en fait, le PDG qui a été assassiné dirigeait une entreprise qui, par sa politique, notamment de non-remboursement de soins, c'est-à-dire concrètement, United Healthcare, en quelques années, est passé d'un taux de 10% de refus de soins à de refus de remboursement de soins à peu près 25-30%. En fait, cette politique, elle a été menée en faisant en sorte de compliquer le parcours des personnes. C'est-à-dire que consciemment, vous avez une entreprise dont le rôle est pourtant d'assurer des gens face aux risques de la vie et les risques graves, qui choisit pour améliorer la rentabilité de ses actionnaires, hein, pour faire du profit, et ben de nuire à leur santé. Et donc ça, cette situation, elle était bien connue aux États-Unis. Je pense que nous, en Europe, on l'a découverte plutôt à cette occasion. Et donc elle pose cette question finalement, la violence du capitalisme arrive à un tel point qu'en fait des réactions, y compris très excessives contre elle, peuvent sembler légitimes à la population. C'est vraiment ça qui m'a intéressé.
Nicolas Framont, quand on dit « c'est un meurtre, mais » est-ce qu'on n'est pas en train de légitimer cet acte ?
Non, je pense... Alors, de la part, effectivement, des gens qui disaient ça, on peut y voir une forme de légitimation. Moi, je pense que ça a été fait avec beaucoup de distance et d'ironie qui est propre aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que, encore une fois, pour moi, c'est de la compréhension, c'est pas forcément de la sympathie. Je pense pas que les gens qui aient salué cette figure populaire soient prêts à faire la même chose. Je ne crois pas du tout. En revanche, c'est un peu, si vous voulez, quand vous dites « je comprends Luigi Mangione », eh bien, vous faites un peu un pied de nez à toute une rhétorique dominante qui est de dire la mort, le meurtre est toujours tabou. Mais ce que les gens ont aussi pointé, et je le pointe aussi, c'est que le meurtre est tabou, sauf dans certaines conditions, et qu'en fait, dans nos sociétés, on tolère la mort des SDF, on tolère la mort des réfugiés dans la Méditerranée, on tolère tout un tas de morts un peu plus indirectes, mais qui sont quand même réalisées par des États. On tolère de la
violence... Donc là, on pourrait tolérer la mort du PDG de United Healthcare, c'est ce que vous nous dites.
Moi, mon point de vue que je défends dès l'entrée du livre, c'est que moi, par exemple, à titre personnel, je suis contre la peine de mort partout. C'est-à-dire, je suis contre la peine de mort dans la Méditerranée, je suis contre la peine de mort aux États-Unis, je suis contre la peine de mort en Palestine, par exemple. Et au nom de ce point de vue, j'estime que celles et ceux qui dénonçaient ce meurtrier uniquement et qui refusent toute, la sympathie dont il est l'objet, quelque part, sont hypocrites. Parce que par ailleurs, les puissants de ce monde, par exemple en France, mais aussi aux États-Unis, tolèrent le meurtre quand il se passe à l'étranger. Et tolère des politiques sociales qui conduisent à des décès, c'est prouvé. Hein. Voilà,
quand et vous qui conduiront peut-être à d'autres actes des imitateurs de Luigi Mangione. Il faut s'attendre à ça. Aux États-Unis, on décrivait en début d'émission la tension qui règne dans ce pays. Voilà, il faut s'attendre à des imitateurs de Luigi Mangione.
Alors, à ce stade, on n'en a pas eu. Donc, moi, je ne m'y attends pas spécialement. Et je ne vais pas spéculer sur la suite. Mais encore une fois, moi, je ne crois pas qu'il y ait des signes de ça. Par contre, il y a eu des effets. Les effets, c'est une libération de la parole sur la violence du système de santé. Et ce slogan qui est apparu sur les réseaux sociaux, slogan en anglais, qui dit make capitalist afraid again. Mm-hmm. Donc, faire peur à nouveau aux capitalistes. L'idée de dire que quelque part, si la société capitaliste est aussi violente, c'est peut-être qu'en face, dans les classes dominées, dans le peuple, on n'a pas su apporter de réponse pour se protéger suffisamment. Donc, pour moi, ce que ça peut engendrer, ce que j'observe déjà, ce qu'on peut voir d'ailleurs en ce moment en France, c'est par contre une montée de la radicalité ou des méthodes d'action pour s'opposer aux gouvernants. Et ça, on ne le voit pas qu'en France, on le voit ailleurs dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que collectivement, on doit quand même faire face, et peut-être qu'on doit le faire de façon un peu plus déterminée. Ce qui ne veut pas dire que, encore une fois, ça soit le meurtre qui soit privilégié. Moi, je crois que c'est une action marginale qui est vraiment une rareté sociologique quand on voit le profil du personnage. Pour moi, justement, c'est pas un fait social, le meurtre en lui-même. Moi, je ne crois pas qu'on va aller vers plus de meurtres de PG. Je n'y crois pas. En revanche, je pense que ça produit une image dans la société qui ébranle, quelque part, la solidité et la crédibilité de la classe dominante capitaliste aux États-Unis comme ailleurs.
Ça, mais ça vous dites ça, Nicolas Framont, alors que hasard du calendrier, meurtre de cet influenceur pro-Trump, on sent cette tension. Pour vous, il n'y a pas de lien entre les deux?
En fait, à ce stade, moi, je suis pas capable d'apporter de réponse parce qu'en fait, pour l'instant, on n'a pas d'identité de suspect. Moi-même, quand j'ai couvert le meurtre de Brian Thompson à Frustration Magazine, on a attendu quelques jours parce qu'on s'est dit, un meurtre aussi peut toujours être couvert par des motifs politiques et parfois, en fait, il est d'origine crapuleuse. Donc, à ce stade,
on n'en sait rien. Merci beaucoup, Nicolas Framont, sociologue, rédacteur en chef du magazine Frustration, et vous publiez Sans Luigi, comment répondre à la violence du capitalisme. Bonne soirée à vous.
Quand tu veux.
Le bouquin commence par une mise en garde de l'auteur qui trouve important de mettre en avant que la vie humaine reste sacrée, même dans notre système. Il met bien en avant que la vie humaine est sacrée et que ce livre porte essentiellement sur l'onde de choc suscitée par cet assassinat. En décembre 2024, Brian Thompson est assassiné. Brian Thompson est un homme de 50 ans, et à 50 ans lorsqu'il est mort sur un trottoir, sans avoir pu voir son meurtrier, sans avoir pu prononcer le moindre dernier mot. Il était père de famille, venait d'un milieu modeste, et se rendait sans doute le pas léger vers cette assemblée d'actionnaires, et il a perdu la vie de bon matin. J'ai pris cette phrase-là parce que on a tendance un peu à oublier de se focaliser juste sur la symbolique de cet acte. On oublie qu'en fait, oui, c'est vrai, c'est un homme qui est mort tout seul, loin de sa famille. Il n'a pas compris ce qui est arrivé. C'est arrivé par derrière. Il n'a pas pu dire au revoir à ses proches. Et donc, il y a, c'est vrai, ce volet-là qu'on doit essayer de garder à l'esprit, même si, dans ce monde tellement violent, on aurait tendance à se réjouir de cette mort, alors que la question n'est pas là. Donc, je vais essayer de faire quand même synthétique parce que j'ai toujours tendance à trop me disperser. Ce livre porte sur l'onde de choc suscité par cet assassinat dans un monde régi par le capitalisme. C'est en quelque sorte un retour à l'envoyeur. Brian Thompson perd la vie car il est un agent direct du capitalisme et il est abattu là, sur ce trottoir, seul et loin des siens. Il s'était spécialisé dans... il était donc PDG d'une assurance santé. Il s'était spécialisé dans des stratégies d'évitement de remboursement des assurances maladie. Alors même que l'on sait que le système américain rend essentielles ces assurances, ces refus ont conduit à une diminution et à un taux de mortalité extrêmement élevé. À partir de là, moi, ça s'arrête juste là, hein, ça se dit bien. Et ça explique aussi toute la symbolique qu'il y a eu que Luigi a mis dans cette exécution. Il a fait graver sur trois douilles trois mots qui pour lui étaient super importants. Retarder, refuser et détrôner. Donc, retarder, c'était l'évitement pour les remboursements. Refuser les remboursements, même si ça conduisait à la mort ou à une aggravation de l'état des affiliés. Et le dernier mot qu'il a rajouté, c'est détrôner, destituer. Alors, en même temps que la vie humaine reste sacrée, le capitalisme en soi n'a rien de sacré. Les agents du capitalisme, les petites mains du capitalisme qui mettent en place ces stratégies pour qu'ils puissent continuer à survivre, n'ont rien de sacré. Et donc, il y a ce paradoxe, comment peut-on lutter contre le capitalisme et tous ses effets sans nous-mêmes basculer dans cet appel à la violence, ou en tout cas cette acceptation ou validation de cette mort. Comment faire nous-mêmes pour... Mais ça, c'est un questionnement que moi-même, je me pose, c'est comment faire pour ne pas basculer nous-mêmes dans la violence qu'on subit quotidiennement. Je n'ai pas la question, j'aimerais bien la voir, mais moi, je pense qu'elle est inévitable. Je ne sais même pas que je ne suis pas d'accord. Pendant longtemps, je me suis crue pacifiste, je ne le suis pas du tout, je ne suis plus du tout, clairement. Mais c'est vrai, en fait. Et à un moment où... C'est fini.
J'avais pas compris. Tu peux clôturer ta phrase.
À un moment où la violence du capitalisme et avec l'avènement de l'extrême droite, quelles sont nos stratégies? Qu'est-ce qui est possible, pas possible? Qu'est-ce qui est, je perds le mot,
éthique.
Voilà.
Je m'étais cru pacifique, je ne le suis plus du tout. Wow, punchline.
Donc tu comprends le montage?
Non. Bien sûr que non. Malika, du coup.
Alors moi, il y avait une partie. Je vais dire juste les extraits que j'ai envie de restituer. J'aime bien qu'à un moment donné, il explique. Le système de santé n'est pas le même qu'ici en Belgique, mais quand même il y a beaucoup de similarités. Et en fait, comment ce système de santé est actuellement conçu via le capitalisme pour en fait détruire la vie des personnes. Et il explique ici un truc que j'avais bien aimé, qui dit un envoyé spécial avait fait un questionnement à une assurance, et le monsieur qui assurait, il dit: nous avons reçu une formation pour comment refuser les soins aux clients. Et ils devaient passer, ils avaient une espèce de dispositif où ils avaient 7 minutes où ils devaient convaincre aux patients pourquoi est-ce qu'on leur refusait les soins. Et au bout de 7 minutes, il y avait une lumière rouge qui clignotait à côté du monsieur. Et en disant que le temps était fini. Et si tu ne t'arrêtais pas de à ce moment-là de parler, de convaincre à l'autre comme pourquoi est-ce qu'on allait te refuser les soins, la communication s'arrêtait. Et donc, c'est-à-dire aller jusqu'à former des gens pour tuer, pour les tuer. Et ça, c'est dans les soins de santé, quoi. Et donc, comprendre comment fonctionne le système de soins de santé et qu'actuellement, le capitalisme fait que même les soins de santé, en fait, ils ont comme but de nous faire mourir. Ça, je trouvais que c'était quand même un truc qui était important. Une autre phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est que il disait en fait, souvent, on entend à la radio et autres que les actions d'un truc ont passé de 14 millions à 16 millions et autres. Et chaque fois, on se dit, putain, mais c'est des millions, mais qu'est-ce que ça représente pour nous ? Et que quelqu'un avait fait un peu quelque chose que je crois qu'on avait essayé de faire quelques fois, c'est dire, mais en fait, 14 millions d'euros qu'il a perdu ou qu'il a gagné et autres, ça représente... la restitution de 10 écoles. Ça veut dire que 10 écoles arrêteront de fonctionner par le petit écart ou le petit gain ou perte qu'a eu cette association, ce multimillionnaire. Et ça, je trouve que c'est aussi un truc qu'il faut se mettre en pouvoir, de dire, OK, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des parallèles de choses qui nous touchent à nous ? Et que, en fait... Quelque chose qui est emblématique et pourquoi il décide de faire Saint-Ludie, c'est que ce que a suscité la mort de et, c'est-à-dire ce que lui Luigi a fait, a même fait vraiment peur aux actionnaires. Il disait, des milliers d'actionnaires aux États-Unis ont décidé d'organiser leurs assemblées en distanciel, ont renforcé et ont utiliser des millions pour la sécurité de leurs cadres dirigeants. Ils ont retiré la photo de tous d'entre eux de leur site Internet. Et ça, je trouvais... C'est-à-dire, je crois que c'est quelque chose qui même si il n'était pas vendu comme quelqu'un de militant, de... On nous vend toujours un peu que pour désobéir ou pour être militant, il faut être le top, il faut avoir grandi dans un certain espace, fait certaines études et autres. Et qu'en fait, ici, ça montrait que ben, ce type-là, il n'était pas spécialement ni militant, ni autre. Ou en tout cas, ce n'était pas un criminel dont on pensait qu'il allait pouvoir faire ça, par où il appartenait. Et oui, je vais juste finir ma phrase que j'avais bien aimée. Et donc, il dit, ben, ce qu'il représente, c'est au nom de ce contexte économique, politique et social, ce que pour les peuples représente quand ils sont à bout. C'est-à-dire, on est tellement à bout de subir tout ça que c'est pour ça que ça représente quelqu'un qui est allé au bout de ça. Et ça montre bien que tous les meurtres ne se valent pas dans nos sociétés régies par le capitalisme et par l'impérialisme. D'ailleurs, est-ce que lui soit mort ou c'est-à-dire que cet actionnaire soit mort, ben, on le voit aussi avec la Palestine. C'est-à-dire, qu'est-ce que les morts montrent et comment est-ce que valent même nos morts
Merci beaucoup, Malika. Alors, Véronica.
Alors, ça va être un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, même si c'était que 10 pages. Ça suscite aussi beaucoup de réflexions, quoi. Je pense qu'on aura après. Mais en fait, dans la fin de l'introduction, il explique comment le capitalisme est invisibilisé. Et en fait, ce qu'il fait, c'est mettre à nu. Et je pense que c'est très bien cette expression-là, parce que, bon, je vais continuer après, ils mettent à nu tous les mécanismes de fonctionnement du capitalisme. Et en fait, le but du capitalisme, c'est nous cacher ça, invisibiliser ça, de façon à ce que nous, on soit perdus et complètement dépassés par les systèmes. Et je disais mettre à nu, parce qu'en fait, il y a toujours cette dichotomie entre... le fait que le capitalisme se montre comme quelque chose de désincarné et qu'en fait on subit ça dans nos propres chairs. Et vers la fin, en fait, il explique que si les politiciens prend ce genre de mesures qui nous écrasent en tant qu'individus, c'est parce que justement il y a trop de filtres entre les décisions qu'ils et elles vont prendre et la manifestation de ces effets. Parce qu'eux, ils ne vont pas subir ça sur leur propre chair, ni eux, ni leurs proches aussi. Il y a cette idée de quand on a quelqu'un à côté de nous qui souffre, bah alors ça va nous faire changer d'avis. Et c'est pour ça aussi que lui, il ramène ça aux personnes, je veux dire l'auteur. Et alors, il donne plein de statistiques, par exemple, sur l'augmentation du nombre de cancers. Mais il parle aussi de sa grand-mère et comment sa grand-mère a eu des problèmes pour être prise en charge dans un hôpital du fin fond de la France, à Rochefort. Et voilà, mais un truc qui est assez sympa à noter, c'est qu'il parle du dévouement du personnel. Enfin, il parle d'un système hospitalier qui est complètement surchargé, mais il y a toujours des personnes. Et voilà, c'est toujours ce truc de montrer que derrière le capitalisme, il y a des personnes. Et de la même façon qu'il y a des personnes qui sont les leviers de tous ces crimes et d'atrocités commis contre les citoyens, comme le type qui a été assassiné par Luigi Mangione, il y a aussi des personnes qui font partie de ce système et qui essayent de garder un caractère plus humain, on va dire. Et voilà, je vais m'en arrêter là parce qu'il y a encore d'autres choses, mais ça fait trop.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronica. Alors, Éléonore, malheureusement, a dû lire sa partie, avait commencé à lire sa partie, et donc elle a dû s'interrompre pour gérer son problème de téléphone. Mais du coup, il va nous manquer une petite partie. Pour celles qui sont autour de la table et qui sont frustrées, elles peuvent reprendre la partie d'Éléonore et la lire si elles souhaitent, ou plonger dans le bouquin. Donc, Wayan, tu es OK pour prendre la suite ?
Ouais, je pense que moi, j'ai eu la fin de l'argumentaire de la partie d'Éléonore, parce qu'il y a vraiment deux parties dans les 10 pages que j'ai lues. Donc, très rapidement, la fin de ce que je crois être la partie d'Éléonore, c'était... il fait le parallèle entre les constats de l'évolution des morts et l'évolution des profits de ces entreprises dont il parle. Il parle de ces entreprises tueuses de masse qui arrivent à se positionner comme incontournables aussi dans le système de santé. Il donne des exemples comme le Valium, qui est un anxiolytique donné pour tout et pour rien. Voilà. Moi, je trouve que dans cette partie-là, il m'a manqué la complicité du système de santé, des docteurs et tout ça. J'ai écrit ça, mais voilà. En plus de tuer à microdose, il dit que que les médicaments donnés permettent de fonctionner, mais pas de guérir. Et donc, c'est tout ce que demande le capitalisme. Ça provoque l'addiction et donc énormément de rentrées d'argent. Ça, c'est pour la partie d'Éléonore. La fin de cette partie-là, je pense. Après, il parle de quelque chose que j'ai l'impression qu'on se questionne souvent, nous, c'est comment ces familles-là, multimilliardaires, font pour dormir le soir face à ces chiffres. Et donc, il met en lumière certains points. Donc, il dit que ressentent les membres de la famille Sackler. Donc il dit « La richesse les empêche de réfléchir. Ils sont pris donc par la bonne nouvelle de l'enrichissement et donc ils n'ont pas le temps de réfléchir à l'impact de leurs actions. » Ensuite, il dit qu'il paye des personnes pour leur dire qu'ils sont géniaux. Et toutes ces personnes qui sont dans leur entourage direct ont intérêt de leur dire qu'ils sont géniaux pour s'enrichir. Et donc il nomme les assistants, les conseillers, toute la cour des ambitieux. Et donc, ils ne croisent pas les mécontents. Donc, il dit que quand ils roulent en voiture dans la ville, ils peuvent les croiser, mais ils ne se confrontent pas à eux. Et puis, il fait tout un long passage sur les consultants. En fait, mes 10 pages, c'est vraiment sur ça, sur le rôle des consultants face à ces entreprises-là. Et il parle des consultants un peu comme des remparts à la réalité. Moi, j'ai écrit des sorciers, mais peut-être que le mot sorcier, on doit se le garder pour nous. Je sais pas, mais donc Donc, du coup, les consultants, c'est vraiment comme des super-héros pour ces personnes-là. Donc, ils contrent toutes les attaques. Dans le cas de condamnation, ils leur évitent des procès, ils détruisent des documents. Donc, toutes les stratégies sont bonnes, les stratégies de com, les stratégies d'indemnisation aussi quand c'est nécessaire quand même, parce qu'ils ont la marge de manœuvre pour faire ça. Donc, pour maintenir des ventes, par exemple, malgré des overdoses qui sont avérées, dont tout le monde est conscient. Donc, bref, ils blanchissent la situation de ces familles et ils arrivent à prévoir les sales coups qui peuvent leur arriver. Donc, ils se focalisent sur le cas de McKinsey. Et puis après, ils prennent le cas de Orpea pour faire une comparaison avec le cas européen. Et ils parlent, par exemple, de Peugeot, qui est un actionnaire principal et qui, grâce à McKinsey... a permis de sortir indemne de l'affaire Orpea, alors que c'est des actionnaires majoritaires. Et puis le dernier argument qui dit « mais comment ça se fait qu'ils arrivent à dormir le soir, ces gens ?», c'est la perception sélective de la réalité et donc la valeur des vies. Et donc là, il parle de racisme social. Il fait référence à une série qui m'a donné envie de la regarder, qui s'appelle « Succession », une série HBO. Je ne sais pas si vous avez vu cette série-là. Voilà. Et puis après, du coup, il parle aussi de, comme tu disais, la peur qu'a suscité cette action de Luigi dans le secteur, et de dire que, c'est des... Ouais. Bon, la fin était aussi hyper intéressante, mais voilà, ce sera pour la discussion après. Mais c'est moins organisé dans ma tête, donc... D'accord. Je vais passer la parole et comme ça va faire écho, c'est clair. Ok.
Voilà. Alors, Christelle.
Oui. Donc, moi, j'ai reçu le début du chapitre 2 qui s'appelle Rendre les coups. Alors, ça parle pas du tout de Luigi. Framon essaye de démontrer à quel point le pouvoir en place ici, c'est français, c'est très franco-français. Donc que le pouvoir en place ruse pour écraser la colère du peuple. Et donc il prend comme exemple Achille et Ulysse. Hein, c'est Édouard Philippe, en fait, qui parle. Et donc il dit carrément qu'il faut ruser pour écraser la révolte. Et Édouard Philippe constate que plus ces réformes sont dures et en accord avec l'ordre bourgeois... qui sont soi-disant, entre guillemets, bonnes pour le pays, plus ça passe. Et donc, le bilan de ces réformes, c'est... ce que ça produit, c'est évidemment une augmentation de la pauvreté, ça augmente la richesse des grandes fortunes, et ça réduit... augmente la réduction globale des droits des travailleurs et des usagers de la sécurité sociale. Donc, il parle principalement de ça. J'avais envie de vous lire une phrase. Donc, il parle des élections démocratiques et toute la problématique finalement du vote qui soi-disant va résoudre tout. Et donc il dit le niveau de défiance entre les institutions dites démocratiques en France comme aux États-Unis comme ailleurs dans le monde en dit assez long sur le degré de lucidité des citoyens vis-à-vis de ce qui s'apparente par moments à une mascarade. Il existe effectivement des choix possibles, mais ces choix sont définis par la classe dominante dans sa diversité, et les gagnants sont soutenus par des moyens financiers qui leur permettent d'obtenir de quoi mener leur campagne, obtenir le soutien de médias qui sont en grande partie sous la coupe des familles de la bourgeoisie et obtenir démocratiquement la victoire. Donc voilà, dans ce début de chapitre, il explique à quel point le politique finalement, par les moyens qui existent pour les citoyens, arrive toujours à tromper... par la ruse, le peuple, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, voilà, moi, c'est ça qui me touche, c'est finalement le problème du vote. Vraiment, ça fait longtemps que je me pose des questions sur cette remise en question des élections démocratiques qui, finalement, mènent toujours aux mêmes impasses. Les dominants sont toujours les mêmes, et les dominés aussi, du coup. Voilà, ça, ça me pose cette question-là. Et donc, par rapport à ça, je pense que... Enfin, je suis convaincue, moi, par l'action collective. Je pense qu'il y a le collectif citoyen. Je pense que, voilà, c'est à nous de rien lâcher. Quitte même parfois aller vers la violence. Enfin, ça ne me gêne pas particulièrement. Et aussi, via ce collectif, d'utiliser le droit, que ce soit le droit humain, la Constitution... pour se faire entendre et conserver les acquis sociaux, si c'est encore possible, et en tout cas des droits, quoi, nos droits fondamentaux. Voilà, ça c'est ma conclusion.
Merci beaucoup, Christelle.